aujourd'hui à Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 1er mai 2020. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. La Journée internationale du travail célébrée ce vendredi dans un contexte particulier avec des millions de travailleurs ayant perdu leur emploi à cause du Covid-19. Les derniers chiffres du Covid-19 dans le monde, justement, plus de 3 260 000 cas et 233 000 morts. En Afrique, la maladie a tué près de 1 600 personnes. L'OMS souhaite que la Chine l'invite à participer à une enquête internationale sur l'origine du nouveau coronavirus. Ici aux États-Unis, le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, dément les accusations d'agression sexuelle d'une ancienne collaboratrice remontant aux années 90. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a appelé les belligérants libyens à reprendre les discussions militaires entamées en janvier à Genève en vue de parvenir à un cessez-le-feu durable. Elle a appelé toutes les parties à s'abstenir de tout acte ou propos provocateur susceptible de menacer les perspectives d'une trêve. L'appel de l'ONU intervient au lendemain de l'annonce par le maréchal Khalifa Haftar d'une trêve qui a été rejetée par ses rivaux du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. Le GNA avait exigé que toute trêve soit accompagnée par des garanties et des mécanismes internationaux pour surveiller son application. À défaut des traditionnels défilés du 1er mai à cause du coronavirus, les travailleurs marquent cette journée par des manifestations virtuelles. Nathalie Barge vous propose un tour d'horizon de la fête du travail perturbée par le Covid-19 qui a réduit au chômage des millions de travailleurs dans le monde.
En France, les syndicats ont appelé à manifester sur les réseaux sociaux ou aux fenêtres. En Italie, le grand concert traditionnel à Rome se tient sans public. En Allemagne, 5000 policiers ont été déployés à Berlin pour faire respecter l'interdiction de rassemblement de plus de 20 personnes. En Grèce, des centaines de manifestants sont sortis en respectant la distanciation sociale. En Turquie, la police a arrêté plusieurs responsables syndicaux qui défilait à Istanbul. En Indonésie, où le 1er mai réunit habituellement des dizaines de milliers de personnes à Jakarta, les syndicats ont manifesté en ligne. Les traditionnelles célébrations officielles ont été annulées en Algérie, comme dans la plupart des pays africains. Il n'y a pas eu de défilé ni de discours à la Bourse du Travail et même pas le dépôt symbolique des cahiers de doléances des travailleurs à cause du confinement.
L'Afrique reste l'un des continents les moins touchés avec plus de 36 000 cas et environ 1 500 décès liés au Covid-19. L'OMS appelle les gouvernements africains à maintenir des mesures fortes de surveillance pour lutter contre la pandémie, malgré le début des déconfinements dans certains pays. Le point avec Nanit Talani.
Pour l'OMS, il est important de maintenir des mesures fortes de surveillance, de tests et de contrôle pour mettre fin à la pandémie. Car si les gouvernements mettent brusquement fin à ces mesures, nous risquons de perdre les gains que les pays ont réalisés jusqu'à présent contre le Covid-19. Le Congo et la Guinée équatoriale prolongent le confinement. La Sierra Leone a de nouveau décrété le confinement à partir de dimanche et pour 3 jours. Au Niger, plus de 1 000 orpailleurs rentrés du Burkina Faso seront confinés pendant 2 semaines à Niamey. En Afrique du Sud, 1,5 million de personnes ont été autorisées à reprendre le travail sous stricte protection sanitaire dans le bâtiment, le textile ou la maintenance. Mais l'essentiel des restrictions sont restées en place. Au Gabon, les vendeurs ambulants battent à nouveau le pavé au pied des bureaux et des ministères à Libreville, rouverts après 2 semaines de confinement. Le Rwanda procédera à partir de lundi à un déconfinement partiel après plus de 6 semaines de confinement. Les masques seront obligatoires sur les lieux publics. Les frontières du pays restent fermées et les rassemblements de masse interdits.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 233 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Un état des lieux avec John Linden.
Plus de 3 264 000 cas d'infection ont été diagnostiqués dans 195 pays et territoires à travers le monde. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec plus de 63 000 morts et plus d'un million de cas. Le président Donald Trump a déclaré avoir vu des éléments qui lui permettent de penser que le nouveau coronavirus proviendrait d'un laboratoire chinois à Wuhan, dernièrement accusé de manque de transparence. La Chine, d'où l'épidémie est partie fin décembre, entame aujourd'hui 5 jours de vacances, mais il n'y a pas eu affluence dans les rues. À Pékin, la cité interdite a rouvert après 3 mois de fermeture, mais les Chinois sont restés sur leur garde. En Iran, ce vendredi, les mosquées sont restées fermées. Les fidèles musulmans ont adopté la solution du drive-in pour pouvoir se rassembler pendant les cérémonies religieuses du mois de Ramadan.
L'OMS a appelé aujourd'hui la Chine à l'inviter à participer aux enquêtes sur les origines animales du nouveau coronavirus qui a mis à terre l'économie planétaire. Eric Amanerekiza.
Selon l'OMS, les enquêtes en cours en Chine portent notamment sur des cas de personnes malades dont les symptômes ont commencé à se manifester à Wuhan et dans ses environs à la fin de 2019. Des échantillons ont été pris dans les environs des marchés et des fermes des régions où les premiers cas humains ont été identifiés et sur des espèces sauvages et animaux d'élevage vendus sur ces marchés. Le porte-parole de l'OMS indique que les résultats de ces études sont essentiels pour prévenir toute nouvelle introduction zoonotique du virus qui cause le COVID-19 chez les humains. Mais l'OMS ne participe pas actuellement à ces études en Chine. En revanche, l'OMS continue de collaborer avec des experts en santé animale et santé humaine, avec des pays et d'autres partenaires, afin d'identifier les lacunes et les priorités en matière de recherche pour la lutte contre le COVID-19. Malgré le soutien apporté à l'OMS par un grand nombre de pays ou de dirigeants, certains ont commencé à émettre des doutes ou des critiques. Les États-Unis ont suspendu leur financement à l'organisation, l'accusant d'avoir trop tardé à sonner l'alerte.
Des dizaines de journalistes sont morts depuis 2 mois dans le monde à cause du nouveau coronavirus, a estimé ce vendredi l'organisation suisse Press Emblem Campaign. L'organisation déplore une protection insuffisante des employés des médias couvrant la pandémie. À 2 jours de la Journée mondiale de la liberté de la presse dimanche, cette organisation non gouvernementale basée en Suisse avertit que de nombreux journalistes se mettent en danger pour couvrir la crise du Covid-19, certains tombant malades en faisant leur travail. L'Inde a prolongé ce vendredi le confinement de 2 semaines supplémentaires après le 4 mai pour lutter contre l'épidémie de coronavirus tout en allégeant certaines restrictions. Les zones où aucun cas ne sont recensés pourront bénéficier de considérables assouplissements, indique le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, a démenti catégoriquement ce vendredi l'accusation d'agression sexuelle d'une ancienne collaboratrice qui perturbe fortement son début de campagne face au président Donald Trump. Ces accusations sur des faits remontant aux années 1990 ne sont pas vraies, a déclaré dans un communiqué l'ancien vice-président américain. Cela ne s'est jamais passé, a-t-il affirmé. Tara Reid, 56 ans, accuse Joe Biden, âgé de 77 ans, de l'avoir agressé sexuellement dans un couloir du Congrès américain lorsqu'il était sénateur en 1993. Joe Biden a aussi pointé qu'il n'existait pas de traces écrites d'une plainte déposée par Tara Reid à l'époque des faits. L'Iran a condamné ce vendredi la décision de l'Allemagne d'interdire sur son territoire toutes les activités du mouvement libanais Hezbollah. Cette interdiction du Hezbollah par l'Allemagne est une réclamation de longue date, selon Berlin, des États-Unis et d'Israël qui considèrent le mouvement comme une organisation terroriste. Pour l'Iran, qui est allié au Hezbollah, cette décision de Berlin est seulement destinée à remplir les objectifs des États-Unis et d'Israël. Le procès d'un Norvégien d'origine iranienne accusé d'espionnage et de tentative d'assassinat sur le sol danois au profit de l'Iran s'est ouvert ce vendredi à l'ouest de Copenhague. L'homme âgé de 40 ans aurait, sur instruction du service de renseignement iranien et en collaboration avec lui, mis en œuvre une opération de renseignement au Danemark concernant un exilé iranien selon l'acte d'accusation. Il est poursuivi pour avoir préparé l'assassinat d'un dirigeant d'un groupe séparatiste arabe en Iran. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Le Mali a reçu du FMI 200 millions de dollars pour faire face au Covid-19. Les dépenses occasionnées par les mesures prises par Bamako pour combattre la pandémie ainsi que le ralentissement économique vont accroître le déficit budgétaire et les besoins financiers du pays. Pour le FMI, si ces besoins ne sont pas remplis, cela pèsera sur les dépenses indispensables en matière sociale et de développement. Les sommes envoyées par les immigrés dans leur pays d'origine, qui représentent jusqu'à un tiers de l'économie de certains pays pauvres, vont chuter de 20% cette année en raison du coronavirus, estime la Banque mondiale. Ces envois tomberont à 445 milliards de dollars contre 554 milliards en 2019 et auront un impact négatif sur les dépenses consacrées à l'alimentation, la santé et l'éducation. Cette baisse, la plus importante de l'histoire récente, est liée aux pertes d'emplois, fermetures d'entreprises et mesures de confinement dans les pays d'accueil de ces migrants. Pour terminer cette minute éco, Boeing réduira ses effectifs globaux d'environ 10% à cause du Covid-19. Ces suppressions d'emplois pourraient affecter au moins 7000 employés.
À présent, la page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir à tous. Le football à l'arrêt, comme tous les autres sports d'ailleurs, confinement, reprise ou pas des compétitions. Mois du Ramadan. Nous faisons un point d'honneur ce soir sur la situation du ballon rond en Afrique du Nord avec notre correspondant à Casablanca, Amine Birouk.
Période compliquée pour le football africain et en particulier en Afrique du Nord où les cas de Covid se multiplient. Il est vrai que lors de ces derniers jours, la cadence est en train de diminuer, mais il y a peu de visibilité concernant la reprise de l'activité sportive, et en particulier celle du football, avec différents championnats nationaux qui sont engagés. On rappelle qu'au Maroc, nous sommes à la 20e journée. En Tunisie, les deux tiers du championnat se sont achevés, mais il reste la partie finale, la partie la plus intéressante, celle qui décidera des champions en titre et des différentes équipes qui participeront aux prochaines compétitions africaines. D'ailleurs, la CAF est vigilante. Elle a envoyé un courrier aux différentes fédérations continentales leur demandant une réponse avant le 5 mai, date butoir, concernant la situation du championnat et les intentions des différentes fédérations, soit une reprise, soit un arrêt définitif du championnat en figeant les positions comme c'est le cas dans certains pays en Europe. Concernant la Tunisie, la réponse est nette et claire. La Fédération tunisienne de football compte poursuivre la saison dès que les autorités sanitaires le permettront. Au Maroc, la situation est un peu plus opaque. Pour la Fédération royale marocaine de football, pas question de prendre le moins de risques, même s'il y a deux scénarios qui s'esquissent. Le premier consistera à une reprise à huis clos à partir du mois de juillet, si la situation le permet. Sinon, auquel cas la Fédération pourrait reporter le redémarrage du championnat au mois de septembre, de façon à pouvoir l'achever. En attendant cela, les sportifs sont toujours confinés. Ils se préparent en suivant le programme d'entraînement dicté par les différents préparateurs physiques et les entraîneurs. Ils se tiennent en visioconférence au courant de ce qui pourrait se faire. Ils ont besoin souvent de préparateurs mentaux pour pouvoir tenir le coup, étant donné qu'ils vivent deux contraintes, celle du mois sacré de Ramadan et celle du confinement, souvent dans des espaces réduits où ils ne peuvent s'exercer comme ils le souhaiteraient. Depuis Casablanca au Maroc, Amine Birouk pour VO Afrique.
Faisant à présent un tour d'horizon en Europe, la France a sifflé hier la fin des saisons de Ligue 1 et Ligue 2. Le Camerounais Maxime Choupo-Moting et le Sénégalais Idrissa Gana Gueye du Paris Saint-Germain sont champions avec leur club qui décroche ainsi son 9e titre. En Italie, le gouvernement annonce que les entraînements collectifs ne pourront pas reprendre avant le 18 mai, ce qui risque de repousser la date de reprise de la compétition privilégiée jusque-là par les instances. La Bundesliga allemande, de son côté, est le championnat le plus avancé. En vue d'une reprise, les ministres des Sports des États régionaux ont estimé possible une reprise mi-mai ou fin mai et à huis clos du championnat, comme le souhaitent les clubs. Pour la Liga espagnole, les 4 ou 11 mai ont été évoqués pour le retour à l'entraînement. Toutefois, une date de reprise de la compétition n'est pas encore fixée. En Angleterre, la Premier League tente d'échafauder un projet qui vise un retour à la compétition le 8 juin, mais à huis clos et dans un nombre limité de stades, la reprise officielle de l'entraînement serait fixée au 18 mai.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, la crise sanitaire affecte toutes les corporations, particulièrement à Boaké. Les médias subissent les effets très durs. Comment les journalistes vivent cette situation ? Le reportage de notre correspondante à Boaké, Aïcha Diarra.
10 radios dans la commune de Boaké, dont une web radio, 5 confessionnels et 4 radios de proximité, dont la radio Safi, sont toutes touchées de plein fouet. Depuis le début du coronavirus en Côte d'Ivoire, Ida Tralou, animatrice et productrice à Radio Safi, ne reçoit plus de partenaires pour la publicité.
On n'a pratiquement plus de marché. Nos partenaires ne sont plus en activité. Donc c'est compliqué. Et pourtant, les radios de proximité privées, non commerciales, vivent des publicités.
Pas de rentrée publicitaire, donc pas d'argent, ce qui amène à un réaménagement forcé des programmes. Souleymane Kenenge, chargé de relations publiques à la Radio Média Plus à Boaké.
Il y a des campagnes qu'on déroulait pour certains organismes aujourd'hui qui ont dû suspendre cette diffusion pour cette cause-là, parce que le public pourrait être, désorienté ou bien ne pas avoir l'attention sur les messages qu'il diffuse. Le Covid-19 nous a fait vraiment beaucoup de tort. Donc, sur le plan financier, j'ai dit que, en tout cas, les choses ont chuté de façon drastique.
La presse en ligne non plus n'est pas épargnée. Les productions journalistiques ont considérablement baissé parce qu'il y a moins d'activités et d'actualités à rapporter. Bandama Kwaku est correspondant de presse en ligne à Boaké.
Déjà, depuis la rédaction, on nous a signifié que tout ce qui était projet, tout ce qui était financement déjà a pris un coup. Donc, ça a connu également aussi un rabais. Donc, il y a un impact. Impact au niveau d'abord des activités. Bon, il y a plusieurs activités qui aujourd'hui sont au rabais. Les activités politiques, les activités économiques à tous les niveaux. Il y a plus trop d'activités ici à Boaké.
Il ne se passe rien, tout le monde est confiné chez soi. Pour les rares activités à couvrir, le journaliste n'est jamais suffisamment protégé contre la maladie. Florence Conan, productrice radio et animatrice à Radio Média Plus Boaké.
Voilà, aujourd'hui, aller sur un reportage ou bien aller sur le terrain, il faut prendre un minimum de protection, les poids, mesures barrières et tout ça. Et c'est pas toujours évident quand on sait qu'on fait un travail de contact. On est amené à être en contact avec les gens. Donc, peu importe souvent le nombre de précautions que tu prends, tu te retrouves toujours exposé en quelque sorte.
La ville de Boaké a enregistré 4 personnes déclarées positives au Covid-19 et toutes sont guéries. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en Côte d'Ivoire, aucun cas de Covid-19 n'est présent dans les villes de l'intérieur et les cas actifs au nombre de 687 sont concentrés à Abidjan. Aïcha Diarra à Boaké pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Gabon, la fête du travail se résume cette année à des messages officiels. Il n'y a pas eu de défilé de travailleurs. Les autorités invitent les partenaires sociaux à des actions de solidarité pour vaincre la pandémie du Covid-19. Libreville enregistra ce jour 276 cas de Covid-19 pour 66 guérisons et 3 décès. Le reportage de notre correspondant sur place, Ismaël Obiangze.
Le boulevard Léon-Ba de Libreville, toujours barricadé pour le 1er mai, est resté ouvert à la circulation ce vendredi. Confiné avec ses 800 000 habitants, la capitale gabonaise vit en mode Covid-19. La pandémie est sans répit pour les petites et moyennes entreprises. Gildas Kombila est un jeune entrepreneur gabonais spécialisé dans le froid et l'électricité et bâtiment.
Notre entreprise aujourd'hui se retrouve dans une situation où on ne peut pas faire des salaires. Donc la crise du coronavirus, effectivement, est une crise qui impacte le monde négativement.
Nostalgique des défilés de la fête du travail, l'enseignant François Nzengue évoque le bien fondé de ce rendez-vous annuel, perturbé par la crise sanitaire du moment.
Nous étions habitués le 1er mai.
en tant que travailleurs de nous retrouver, de faire le bilan, de voir l'action par rapport à aux conditions de travail des populations en Afrique. Et depuis le 12 mars, on est assis à la maison. La conséquence, c'est que depuis le 12 mars, les gens sont sans salaire. Et du coup, le coronavirus, vraiment, l'impact social est très, très, très négatif. Très, très négatif. Donc, c'est vraiment une fête du travail très triste pour nous.
Pour Antoine Mesmé-Mengame, informaticien, la santé du travailleur passe avant toute autre considération.
Le travailleur ne peut pas travailler et être efficient, efficace, s'il n'est pas en bonne santé. Les autorités gouvernementales, en tête desquelles se trouve le chef de l'État, l'OMS et les parents ont bien fait de comprendre la nécessité de reculer, peut-être pour mieux sauter.
Pour limiter la propagation du coronavirus, le gouvernement a décidé de se passer de la fête du 1er mai cette année. Madeleine Baird est ministre de l'Emploi et de la Fonction publique.
Au nom du gouvernement, je saisis l'opportunité qui m'est offerte pour exprimer à l'ensemble des travailleurs la préoccupation et la détermination du gouvernement à faire face à la grave et exceptionnelle situation de l'heure qui est celle de combattre ce virus. C'est donc à dessein et avec satisfaction que les partis ont opté pour placer cette fête de travail sous le thème « Ensemble face au Covid-19 dans le monde du travail ». En effet, la lutte contre le Covid-19 est l'affaire de tous et l'implication de toutes les parties relève d'une obligation de solidarité d'action face à cette maladie qui bouleverse tous nos modes de fonctionnement.
Libreville, Ismaël Obianzé, VOA Afrique.
Président Donald Trump n'a pas prolongé les lignes directrices fédérales sur la distanciation sociale qui ont donc expiré hier jeudi. Il a exprimé son optimisme sur le fait que les États, à leur propre rythme, pourront assouplir les restrictions et rouvrir leurs économies. Certains experts en santé publique s'inquiètent des potentielles conséquences. Patsy Wida-Kausura, correspondante de la Maison-Blanche, fait le point. C'est un récit de Lionel Gaïma.
Après un mois de confinement, les restaurants de l'État de la Géorgie dans le sud des États-Unis ont rejoint d'autres entreprises pouvant maintenant servir leurs clients. Brian Mancuso, propriétaire du restaurant Moe's Original Barbecue dans la ville de Rome en Géorgie.
Nous faisons de notre mieux pour suivre les directives établies par le gouverneur, par le président.
Le président Donald Trump n'a pas prolongé les directives fédérales en matière de distanciation sociale. Il dit espérer que les États pourront assouplir les restrictions au cas par cas et que l'économie en difficulté va bientôt rebondir.
Je pense que vous allez voir des chiffres économiques fantastiques. Je le crois fermement.
Avec les chiffres du département du travail montrant que depuis mi-mars, près de 30 millions d'Américains sont au chômage, Jerome Powell, président de la Banque centrale des États-Unis, est pessimiste.
La crise sanitaire en cours pèsera lourdement à court terme sur l'activité économique, l'emploi et l'inflation, et à moyen terme fera peser des risques considérables sur les perspectives économiques.
À la mi-avril, la Maison-Blanche a publié des directives pour que les États rouvrent leurs économies. Appelées les exigences de confinement, elles sont basées sur une baisse des cas de coronavirus documentés et de la préparation des hôpitaux, entre autres facteurs. Anand Parekh est le conseiller médical en chef du Centre politique bipartisan, un cercle de réflexion.
Vous avez environ 30 États qui sont en train de rouvrir ou d'y penser. Probablement, seule une poignée d'entre eux remplit les exigences initiales de la Maison-Blanche.
Le président Trump affirme pour sa part que son administration travaille avec le secteur privé pour accélérer le développement des vaccins. De son côté, le principal expert en santé du pays fait état d'un médicament prometteur appelé Remdesivir. Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses. Le taux de mortalité tend à être meilleur dans le sens de moins de décès dans le groupe Remdesivir, 8% contre 11% dans le groupe placebo. En attendant qu'une région ou un État ne se précipite pour rouvrir, les communautés confinées chez elles continuent d'évaluer les progrès et les risques pour leur santé. Autrement dit, la prudence reste de mise.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et VOA Afrique. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
La pandémie du COVID-19 a impacté le secteur agricole ici aux États-Unis. Face à la perturbation du système de distribution alimentaire, les agriculteurs américains détruisent les récoltes et réduisent leur production, tout en cherchant avec les représentants de l'État des moyens d'acheminer leurs produits là où le besoin se fait sentir. Reportage Mike Sullivan avec le récit de Thierry Kaoré.
Les agriculteurs récoltent sur ce vaste champ de laitue qui irait normalement au restaurant, désormais fermé ou limité aux commandes à emporter, dans le cadre des interdictions ordonnées par les gouverneurs des États à travers l'Amérique. Les producteurs laitiers américains ont détruit le lait ou réduit la production depuis la fermeture des cantines scolaires. Jamie Joison est président de la Fédération des agriculteurs de la Californie.
La fermeture des écoles a eu un grand effet. Le premier consommateur de lait liquide en Amérique et les programmes de repas scolaires, donc un succès pour les produits laitiers et aussi pour les autres produits. C'est environ 15 à 25 millions de repas par semaine.
Cela vient du fait que les agriculteurs ont perdu des revenus suite à l'arrêt des exportations de produits alimentaires. Ania Rodabo est présidente de l'Union des producteurs laitiers de l'Ouest.
Les produits laitiers sont exportés vers la Chine, le Mexique, le sud-est du Pacifique et comme ces pays asiatiques ont dû réagir à leur propre quarantaine, nous avons vu un arrêt presque complet dans nos ports.
La présidente de l'Union des producteurs laitiers de l'Ouest souligne également que le problème est d'autant plus grave car le lait et ses produits sont périssables.
Parce que nous transformons un produit très périssable, vous devez apporter le lait directement des fermes au transformateur avec seulement quelques heures à perdre. Il doit être réfrigéré, il doit être contrôlé sous température tout le temps.
Les marchés alimentaires et de nombreux marchés de producteurs sont ouverts et les producteurs et les transformateurs disent travailler pour amener leurs produits là où on en a besoin. Jamie Joison, président de la Fédération des agriculteurs de la Californie.
Les agriculteurs cherchent un endroit pour envoyer de la nourriture, donc de vendre de la nourriture. Et bien sûr, nous constatons une augmentation de 50% du nombre de personnes qui se tournent vers les banques alimentaires pour obtenir de l'aide.
Les agriculteurs ainsi que d'autres propriétaires d'entreprises ont reçu l'aide du gouvernement fédéral afin de surmonter la crise. Mais combien de temps faudra-t-il avant que le pays et l'industrie alimentaire ne reviennent à la normale? La question reste posée.
Écoutez VOA Afrique désormais, partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 474 de Canal Plus.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à la mise en onde de Lionel Gaïma, Georges-Léonard Sagnon, Michel Joseph, à la présentation Abdourahman Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voaafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayigouya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Avec vous, Henri Francisque.